Vous écoutez France Culture.
Qu'une centaine d'hommes partent fouiller tout le terrain caché sous ces hauts épis et nous ramènent au roi.
Gisèle et le roi Lear, grand répertoire ce soir dans le rendez-vous, une émission comme chaque vendredi en partenariat avec le magazine À nous Paris. En direct sur France Culture et au Palais de Tokyo, il sera question de paternité, de royaume, de Beckett, d'étoiles, de comédie française et même de fans japonaises. Avec Christian Schiaretti qui met en scène le roi Lear de William Shakespeare dans une veine beckettienne portée par un des derniers monstres sacrés du théâtre français, Serge Merlin. Lucille Como.
De lire une fable sobre et lumineuse, comment faire jouer le fil tendu de la narration contre un théâtre de la déliquescence.
La chronique du vendredi de Thomas Clerc qui met ce soir à son programme la nouvelle revue culturelle Le 1. Et puis nous recevrons Benjamin Pech, danseur étoile de l'Opéra de Paris, à quelques jours d'une tournée internationale, portrait d'un danseur devenu étoile à l'issue d'un marathon qui le fit enchaîner 4 heures de danse de Gisèle à l'Arlésienne, Manu Farine.
Retour donc sur un danseur étoile qui se définit comme danseur de demi-caractère et défend à l'international ce qu'il définit comme la génération d'entre-deux de l'Opéra de Paris.
Et puis nous ouvrirons en musique, comme chaque vendredi au Palais de Tokyo, avec ce soir Cléothée pour la session, Mathieu Conquet.
Et on finira aussi en musique avec elle. Cléothée, c'est peut-être la reine de la nuit, mais côté pop, son album des chansons d'or et d'ombre, ça c'est le titre en anglais, sort en juin prochain. Elle chantera 2 titres en trio, violoncelle et percussion.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet. Et puis les brèves de Benoît Lagan. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Quelque chose de très grave pour le cinéma est en train de se produire, disait hier soir sur France 5 la déléguée générale de l'Observatoire de la liberté de création, Agnès Tricouart. Selon elle, la pression de groupes catholiques sur certains films atteint un niveau inégalé depuis 15 ans. Elle était morale et civique, elle devient judiciaire et institutionnelle.
Et événement emblématique d'ailleurs, la remise en cause récente par le tribunal administratif de Paris du visa d'exploitation pour 3 films importants. Alors le visa est délivré normalement par une commission de classification, mais l'association catholique Promouvoir a obtenu la reclassification des 2 nymphomaniacs de Lars von Trier, auparavant interdits aux moins de 12 ans et depuis février aux moins de 16 respectivement et de 18 ans. Un mois plus tard, ce n'est pas passé loin au tribunal pour La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche et après la mobilisation contre Tomboy de Céline Sciamma dans le dispositif... Excusez-moi, j'ai mal écrit. En fait, j'ai mal lu ce que j'avais écrit. Dans le dispositif École au cinéma, vous savez, les films présentés aux élèves, eh bien, parallèlement aux pressions sur les salles, sur la programmation des salles, ce sont les procès qui se multiplient. Ce qu'il y a de nouveau, dit Agnès Tricouart, en fait, c'est la stratégie judiciaire gagnante de ces groupes.
En ce moment, on constate qu'il y a des faits nouveaux à peu près tous les jours. Et ils ont compris aussi que c'était extrêmement porteur de s'en prendre aux pièces, aux livres, aux films. C'est très porteur à la fois parce qu'ils ont des vrais succès, notamment en matière de censure du cinéma. Il y a une seule association en ce moment qui fait la pluie et le beau temps et qui arrive à faire réformer les visas qui sont pris en délibération collective dans la commission de classification des films. Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'info, c'est très important les conséquences de ce retrait de visa parce qu'on ne peut pas diffuser à la télévision des films qui ont fait l'objet d'interdictions. Plus l'interdiction est haute, moins il est possible de diffuser le film. Ils ont agi contre La vie d'Adèle et ce n'est pas une réponse satisfaisante sur le fond quand le juge dit « désolé, c'est trop tard » parce que ça veut dire que peut-être il aurait donné raison, on n'en sait rien. Et ça veut dire que ces gens vont déposer des recours contre tous les visas des films qui ne leur plaira pas. Donc je me retrouve en train de défendre de la commission et l'existence de la commission alors que parfois on la trouve beaucoup trop sévère. Donc vous voyez combien on est dans un système qui est problématique aujourd'hui.
Et problématique au point que l'Observatoire de la liberté de création et cette organisation professionnelle de l'audiovisuel, de la photographie ou des bibliothèques par exemple demandent maintenant à François Hollande de modifier les 2 articles du code pénal sur la protection de l'enfance, 2 articles sur les représentations d'enfants et l'enfant spectateur. Et le problème là c'est qu'ils sont très vagues et donc permettent un usage répressif sur la création. Écoutez là la plaidoirie d'Agnès Tricouart.
Ces articles sont écrits dans des termes tellement généraux qu'en fait on pourrait vider les bibliothèques, arrêter la télévision, ne plus rien diffuser. Donc nous ce qu'on demande c'est que ces articles soient modifiés pour qu'ils ne soient pas applicables aux œuvres. La modification récente de la commission fait qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de poids des professionnels du cinéma, il y a plus de poids pour les experts de l'enfance. Donc déjà, si vous voulez, le niveau des interdictions prononcées par la commission a monté ces dernières années, et il a encore monté à cause de la réintroduction de l'interdiction aux moins de 18 ans après l'affaire Besmois. Alors si, en plus, elle est démentie parce qu'elle n'est pas assez sévère devant les tribunaux, où va-t-on ? On va finir par interdire oui au moins de 18 ans.
D'ailleurs, sachez que le générique de Oui Oui est Vas-y Oui Oui, et la part laissée à l'interprétation est très libre, car ce type de plainte est examiné par un seul juge, et d'ailleurs, à la demande du ministère de la Culture, maintenant, le jugement sur Nymphomaniac va être réexaminé collégialement.
Merci Xavier Martinet. Peut-être une réaction du côté d'un homme de théâtre, Christian Schiaretti, par rapport à ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire la montée en puissance de ces associations catholiques qui arrivent, non pas encore à faire interdire, mais à rendre problématique la diffusion des films, ou par exemple la mobilisation contre certaines pièces de théâtre.
Oui, non, bah, elle est, ça va devenir un lieu commun que de dire que je suis contre.
J'aurais aimé que vous soyez pour, comme ça aurait créé un précédent.
Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les opérations de censure, quelles qu'elles soient, ont aussi un vecteur de réinvention. Je veux dire que toute digue est dépassée. Elles sont vaines. Elles sont vaines dans leur action. Elles peuvent agir à court terme, ça, c'est bien évident, mais elles sont vaines à long terme. Et elles nous permettent quelquefois de réinventer d'autres chemins. Je veux dire que parfois même, on a des censures qui peuvent s'effectuer sur un terrain qui est tellement reconnaissable et tellement visible qu'il est artistiquement, pour moi, peu patent.
Les brèves, Benoît Lagan.
Et pour ouvrir ces brèves suites du feuilleton Picasso, puisque nous avons appris, selon une source proche du dossier, qu'Anne Sinclair avait démissionné du conseil d'administration du musée. Alors Xavier Martinet a contacté par mail Anne Sinclair cet après-midi, qui lui a confirmé qu'elle n'avait pas souhaité rester au conseil d'administration, je cite, « en raison des conditions d'éviction d'Anne Baldassari, rien de plus et je n'ai rien de plus à dire ». Fin de citation.
Changement au cabinet d'Aurélie Filippetti.
En effet, nous avons appris hier soir que Martin Hajdari, secrétaire général de France Télévisions, était nommé directeur de cabinet de la ministre de la Culture, en lieu et place de Laurent Singel, qui a quitté ce poste début mai. Martin Hajdari Hénard, passé au ministère de l'Économie et des Finances, fut entre autres directeur administratif et financier de RFI et directeur général de Radio France. Il prendra ses fonctions rue de Valois le 26 mai.
De nouveaux prétendants à l'immortalité.
Oui, quelques semaines après l'arrivée d'Alain Finkielkraut à l'Académie française, 6 nouvelles personnalités postulent au fauteuil de François Jacob, et parmi eux, l'astrophysicien André Braïc, l'écrivain et conseiller d'État Marc Lambron et notre chroniqueur matutinal, cher aux auditeurs sachant auditer, Philippe Meyer. L'élection est fixée au 26 juin. Que le ciel vous mette en joie.
La banlieue au Palais de Tokyo.
C'est aujourd'hui que s'ouvre ici au Palais de Tokyo, et ce jusqu'à dimanche, le festival Banlieue is Beautiful, initié par l'artiste américain Monty Laster, installé depuis 20 ans dans la cité des 4000 à La Courneuve. L'occasion de déplacer des œuvres produites de l'autre côté du périphérique, puisque comme dit l'artiste, les Parisiens ne veulent pas se déplacer en banlieue, donc la banlieue se déplace à Paris.
Et pendant ce temps-là, à la Croix de Bois.
Oui, le 13 juin prochain, la justice doit trancher entre les trois projets de reprise des petits chanteurs à la Croix de Bois qui font face aujourd'hui à d'importantes difficultés financières. Et si l'on en croit l'AFP, le tribunal de grande instance de Sens a examiné jusqu'en début d'après-midi trois projets de reprise. Celui des parents d'élèves, celui de la maîtrise de la cathédrale d'Autun en Saône-et-Loire ou encore celui du lycée privé parisien Saint-Sulpice.
Et pour terminer, la petite histoire du soir.
Eh bien, pour rester encore du côté de l'enfance, Laurent, une petite histoire de Jean de la Lune, relayée par le site actualité.com, où comment, après la conquête, la NASA se lance dans un projet culturel et littéraire un peu spatial. Je vous raconte. Tout commence donc quand la NASA décide de se lancer dans un programme de cours enregistrés depuis l'espace et envoyés sur Terre. Baptisé Storytime from Space, la NASA profite de sa situation pour prendre de la hauteur afin de cultiver les petits terriens en et mettre à contribution ses astronautes.
Je pense que je n'ai rien compris. Comment ça se traduit en fait ?
Eh bien, les astronautes qui doivent sans doute s'ennuyer en orbite profitent de leur temps libre afin d'enregistrer dans l'espace des séances de lecture, par exemple, mais aussi des petits cours d'apprentissage sur les sciences et les techniques. Les vidéos sont ensuite diffusées sur une plateforme Internet. Exemple, début janvier, Max Goes to the Space Station, écrit par l'écrivain et astronaute Jeffrey Bennett, a été envoyé dans la stratosphère afin d'être lu par des spationautes sur le terrain. Moralité, pour aller plus loin, dans l'infini et l'au-delà, il ne reste plus qu'à la NASA d'envoyer par exemple le livre de Tommy Ungerer, Jean de la Lune, et d'embaucher Alfonso Gravity Cuaron pour le réaliser. Thomas Beau en a déjà signé la bande-annonce avant l'heure, c'est ce que l'on appelle de l'anticipation.
Jean de la Lune est dans la Lune. Hey.
Pouvez-vous me ramener chez moi ?
Sur la Lune ?
La Lune est ma maison.
Ça a vraiment un intérêt.
Bah écoutez, peut-être. Vous n'avez pas envie qu'on vous raconte une histoire depuis la Lune ?
Non.
Moi, ma fille,
non.
Elle adorerait.
Ah bah voilà. C'est toute la différence entre votre fille et moi. Je suis rassuré.
Moi aussi.
Bon week-end.
Le rendez-vous.
Palais de Tokyo.
10h. La session.
Bon, avant de retrouver dans quelques instants Christian Schiaretti et Benjamin Pesch, tout de suite, c'est la session musicale, puisqu'on ouvre, comme chaque vendredi, en musique, ici même au Palais de Tokyo, Mathieu.
Et ce soir, c'est Cléo T, la chanteuse repérée déjà depuis à peu près 2010-2011. Elle joue aussi bien en Italie qu'en Angleterre pour un répertoire, on va dire, une sorte de cabaret pop avec piano, harpe, violoncelle, qui est derrière vous ce soir. Son prochain album va bientôt paraître, Songs of Gold and Shadows, chansons d'or et d'ombre. C'est tout en romantisme noir, avec une sorte de cabaret pop qui évoque aussi bien les figures de la Lorelai que Salomé. Elle a été produite sous la direction de John Parrish, c'est un producteur anglais qui a longtemps été associé à PJ Harvey, mais aussi à Hills ou Sparkle Horse ou récemment Détroit. Il apporte donc une acoustique un peu brute, rock, qui lui va très très bien. La musique de Cléo T, on va l'écouter interpréter We All. Elle est accompagnée de Stanislas Grimbert qui est aux percussions, et c'est le grand Valentin qui se tient derrière vous, Laurent, au violoncelle. En direct sur France Culture, Cléo T. Thank you. Cléo T en direct sur France Culture ici depuis le Palais de Tokyo. Elle sera en concert le 9 juin au Réservoir à Paris, puis le 26 mai au Divan du Monde, toujours dans la même ville, et le 24 juin au 3 Baudets. On la retrouve tout à l'heure pour une deuxième chanson en fin d'émission.
Le rendez-vous.
Voyons mes filles, puisqu'en ce jour, nous abandonnons le pouvoir et nos droits sur les fiefs et les soucis de l'État. Laquelle d'entre eux allons-nous dire la plus aimante ?
Palais de Tokyo.
Plateau monstre avec vous, Christian Schiaretti, metteur en scène. Un parcours qui commence au Festival d'Avignon en 1980. Festival d'Avignon que vous allez retrouver cet été même après quelques années d'absence. On y reviendra peut-être. Vous êtes depuis 2001 le directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne et vous présentez actuellement au Théâtre de la Ville à Paris Le Roi Lear de Shakespeare, pièce monstre, l'histoire d'un roi qui décide de mettre ses trois filles à l'épreuve pour savoir à qui liguer ses terres, un père déçu qui délaisse sa couronne et erre de par son royaume sous forme d'intrigues politiques et de guerres avec la France. Le roi, on l'a entendu à l'instant, est incarné par l'immense Serge Merlin. Et vous avez déclaré « On ne peut monter le roi Lear que lorsqu'on a trouvé son Lear ». En quoi Serge Merlin était-il votre roi Lear, lui qui est un acteur avec un parcours incroyable? Il a arrêté deux fois le théâtre, notamment une fois après la mort d'Albert Camus, qui lui avait confié une pièce de théâtre, et puis une autre fois en 73, je crois, après avoir joué le dépeupleur de Beckett. Pourquoi avoir choisi précisément cet acteur qui avait déjà d'ailleurs joué le roi Lear sous la direction de Mathias Langhoff?
Mais en fait, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'inverse. Alors,
c'est lui qui vient vers vous.
Voilà,
c'est le Isabelle Huppert du théâtre.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, réellement, je contacte Serge pour lui proposer de travailler à l'ouverture du TNP pour jouer dans Sallust d'Henri Blas. Mais comme ce n'est pas le rôle éponyme, il me dit « Pourquoi je ne joue pas Henri Blas ?» Il a 81 ans, je lui dis « C'est un peu compliqué. » Il m'a dit « Alors, ce que je veux jouer, c'est le roi Lear. » Il avait déjà joué le roi Lear avec Mathias Langhoff. Et je pense que le travail de Langhoff était un travail dans lequel le roi Lear était déstructuré, pour le moins. Et c'était le roi Lear de Langhoff avec Serge au service de ce travail-là. Il avait envie de retrouver la pureté, j'ai envie de dire, du poème dramatique qu'est le roi Lear. À partir du moment où il me posait la question, je ne voyais pas au nom de quoi j'aurais refusé. Et je pense sincèrement qu'on ne monte le roi Lear que si on a le roi Lear. Il faut qu'il y ait une adéquation totale entre l'acteur et ce rôle absolument incroyable, d'essence dionysiaque au fond dans une pièce plutôt apollinienne. La pièce au fond est relativement rationnelle si on l'écoute bien, si on la regarde bien. Vous l'avez dit, si on essaie de la clarifier, on va s'apercevoir que c'est une pièce politique. Et à l'intérieur, il y a cet éclat dionysiaque que représente la folie de Lear. Donc une fois que Serge m'a proposé, j'ai accepté.
Un mot sur ce parcours quand même incroyable donc, de Serge Merlin qui arrête par deux fois le théâtre. Je me demandais si cette question d'arrêter à un moment donné s'était imposée à vous. Christian Schiaretti.
Avec
non,
moi,
non, pour vous, dans votre propre parcours, d'arrêter à un moment donné.
Ah bah, il se pose en ce moment.
Ah oui ?
Oui, j'ai assez.
Alors, vous êtes candidat à la Comédie Française.
Ça, on n'est pas candidat à la Comédie Française. On est normalement concerné par la Comédie Française selon des compétences supérieures qui relèvent des prérogatives du président de la République. Donc, au fond.
Ça, j'ai l'impression de lire un texte.
C'est la vérité. C'est la vérité protocolaire de ce type de nomination. Normalement, il faudrait que, dans un arc tendu entre la politique du ministère de la Culture et la clarté de lecture littéraire et théâtrale du métier du président de la République, il y ait le choix de quelques candidats. C'est fait. Et je regrette, moi, qu'on ait le mot de candidature. Ça ne devrait pas être une candidature.
Alors, sur l'arrêt.
Je reviens. Sur l'arrêt, non, c'est à la suite d'avoir fait une saison au Congo à Ouagadougou, en partie avec des acteurs africains. Ils m'ont rendu quelque chose que je cherche désespérément depuis que j'ai quitté Paris. La décentralisation, c'est l'exil. Avant d'être une carrière, c'est quitter Paris. J'ai quitté Paris. À un moment donné, très clairement, je l'ai décidé en cherchant une sorte de rapport dénué de stratégie, de courtisanerie à court terme, d'inquiétude fondatrice du métier, et de trouver un rapport au travail simple. Et je crois que je l'ai trouvé à Ouagadougou en travaillant avec des acteurs, un groupe d'acteurs qui m'ont rendu une énergie que j'avais malheureusement perdue depuis longtemps. Et depuis, c'est vrai que ça me travaille et que je me pose la question, l'alternative à quelque chose d'un peu prétentieux, de se dire que finalement, c'est dans une balance. Il y a effectivement le français, on en parle beaucoup, mais de l'autre côté, il y a cette perspective-là et qui n'est pas pour moi moindre. Mais ça supposerait arrêter une séquence de travail ici.
Benjamin Pesch, vous qui êtes danseur étoile à l'Opéra de Paris, c'est une question qui s'est posée aussi dans votre parcours à un moment donné, d'arrêter cette carrière ?
Non.
Jamais ?
Non, parce que la carrière est extrêmement courte. Je veux dire, on traverse les danseurs en 20 ans, ce qu'un comédien va traverser en 70 ans. Donc, on ne peut pas se dire, est-ce que je vais arrêter ? On a envie de bouffer ça jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière miette.
Alors, une autre question. Si vous n'étiez pas devenu danseur étoile, est-ce que vous auriez continué dans cette profession, dans cet art ?
Non ? Non.
Ah ouais ?
Non, je voulais être devant. Je voulais être devant et je voulais interpréter. Il y avait tout un répertoire qui m'intéressait, qui m'attirait. Et c'était les rôles qui me plaisaient. Je voulais les danser. Donc, rester dans le groupe. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que c'est extrêmement difficile. Mais je crois que moi, je ne l'aurais pas supporté. Donc, j'aurais arrêté.
Lucille Como.
Christian Scaretti, vous avez commencé comme comédien. Vous avez commencé par apprendre ça, le jeu. Quel comédien étiez-vous ?
J'étais très mauvais.
Ah, on était sûr, on avait parié.
Non, mais j'ai... Non. C'est-à-dire, je voulais absolument être un comédien grave et tragique et je faisais rire. Alors, je crois que j'étais un bon comédien comique, mais je ne voulais pas l'être. Alors, du coup, j'ai arrêté. J'ai surtout arrêté. Enfin, j'ai quand même joué pendant 6-7 ans. J'ai joué. Et je même joué il n'y a pas très longtemps. Mais c'est surtout que je n'arrivais pas à vivre le métier tel qu'il était organisé. C'est-à-dire qu'au fond, je suis un homme de troupe, d'où de nouveau la question du français. Et je n'arrivais pas à le vivre dans l'individualité. C'est-à-dire que le rapport, par exemple, à l'agent, le rapport à des répétitions qui sont souvent la régulation de conflits névrotiques qui n'ont rien à voir avec le travail, mais qui donnent l'illusion du travail, ne me satisfaisait pas et je ne trouvais pas mon compte. Et or, vous le savez, la France n'a pas de troupe ou quasiment pas. Donc, au fond, on était renvoyé à un individualisme avec un agent qui s'occupait de nous et qui s'occupait de nos promotions. Mais au nom de qu'est-ce qu'on cultivait exactement à ce moment-là, je ne sais pas quoi, si ce n'est une disponibilité, mais pas autre chose. Donc, très vite, je me suis mis au travail de l'autre côté. Puis la mise en scène, c'est une cooptation, c'est pas une décision. On ne sait pas qu'on est metteur en scène, on s'en aperçoit.
Alors j'aimerais bien savoir justement comment le metteur en scène que vous êtes peut travailler avec Serge Merlin. La dernière fois qu'on l'avait reçu, c'était pour la dernière bande de Beckett sous la direction d'Alain Françon et on avait appris qu'il demandait à ce qu'on enregistre les textes pour lui et c'est à partir des enregistrements et non pas donc de la lecture qu'il travaillait. Il a fait la même chose pour vous avec Le Roi Lear ?
Non, avec moi, alors on a travaillé pendant un an antérieurement tous les deux à la suite de rendez-vous divers dans des lieux très variés, souvent la Coupole où Serge lisait ou disait le texte, un peu fort d'ailleurs, avec une implication un peu trop démonstrative pour le service alentour. Et ensuite, il avait un travail comme ça, constant avec le texte, et c'était le texte d'Yves Bonnefoy. Ça, c'est important, parce que c'est quand même une magnifique traduction et d'une élévation littéraire absolue. Ça, c'est tout un temps de travail. Et puis ensuite, Serge Merlin travaille ce qu'on appelait antérieurement à la souffle. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, il a le texte, sa femme a le texte dans une petite cabine, sur le côté, il comprend en répétition, et il a, lui, une connaissance parfaite du texte, et il est en dialogue avec ce texte qu'elle lui lit en cours de travail. Il dit, Shakespeare m'appelle de sa tombe, avec cette voix comme ça. Et donc, il est en relation directe. Ce qui fait que quand on passe au travail, il est tout de suite dans l'immédiat du résultat. Il n'est pas ni dans l'inquiétude mémorielle réelle, ni dans la recherche du texte. Il dialogue avec cette voix et il restitue au plateau. Ce qui fait que, si vous mêlez à ça le fait que Serge Merlin travaille au présent et jamais au futur, il est incapable d'anticiper. C'est-à-dire, par exemple, si je lui dis, mais là, il y aura un tabouret, il me dit, mais là, il y a un tabouret. Alors, je lui dis, oui, mais ça ne sera pas un tabouret. Oui, mais moi, c'est un tabouret. Alors, à partir de là, on travaille dans la vérité de l'instant. Donc, si vous mêlez le fait qu'il a ce texte qui lui vient d'ailleurs, qu'il connaît très bien, d'autre part, qu'il est incapable d'être dans l'anticipation, mais dans le présent, ça veut dire que je travaille avec lui seul. On pourrait dire, selon un principe d'induction, j'induis, je ne dirige pas, j'induis, avec une patience incroyable,
avec un temps
du bon. Dans un deuxième temps, je travaille avec les autres acteurs, avec une très jeune actrice qui jouait le Roi Lear de façon à ce qu'il n'y ait pas une ambiguïté de projection.
Ah oui, c'est en deux temps, vous ne travaillez pas avec lui.
Et un troisième temps où, en gros, selon des options qui sont trois, quatre, il y a 3-4 options de scène, Serge rejoint les autres dans son présent alors qu'eux sont dans le futur. C'est-à-dire, vous avez des gens avec des brochures à la main et quelqu'un qui dit le texte comme sur un hors-bord. Et donc, il y a une sorte de flottaison et on approche. Et moi, je suis au premier rang, ce qui ne m'est jamais arrivé, hein, et je parle pendant qu'il joue. C'est-à-dire, je dis, descends, approche, attention, tiens, et je n'arrête pas de commenter. C'est une espèce de truc très, très étrange que je n'ai jamais vécu. Ce qui fait que d'ailleurs, 3 jours avant la première, je suis monté dans la salle, parce que j'étais toujours en bas, moi, comme un acteur, en fait. Et j'ai dit, c'est nul, quoi. Ce que je voyais de là-haut, ce n'était pas l'harmonie, c'était mal organisé. Donc, j'ai redirigé en 3 jours. Mais Serge oblige en quelque sorte, mais tous les acteurs, ses partenaires, à être dans le présent du moment. Alors, de ce point de vue-là, chapeau. Parce que, franchement, c'est aliénant, mais à 81 ans, arriver à tenir chaque répétition comme un enjeu de vérité, ça change des répétitions mollassonnes. Ça met une pression, ça demande un travail de fou. Après, le problème, c'est que c'est un homme de Thomas Bernhardt, c'est un homme de Beckett, c'est-à-dire de dramaturgie, bon, qui n'ont pas, disons, la dimension solaire n'est pas la première dimension qu'on peut percevoir, enfin, du moins le Beckett français, parce que ce n'est pas vrai pour le Beckett irlandais. Alors, il faut lutter contre un assombrissement, une sorte d'héliocentrisme qui le caractérise, pour l'ouvrir à ses 28 partenaires, et ça, il l'a fait merveilleusement bien. Moi, ce dont je suis fier dans ce travail, hormis la clarification du roi lire, parce qu'elle n'est pas si fréquente, mais c'est que Serge sourit à la fin et applaudit le public.
Oui, chapeau.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal.
Ça relève du Guinness. Et j'ai trouvé vraiment ça magnifique de le voir à un moment donné rejoindre une communauté théâtrale dans un vrai partage, alors qu'on partait dans un individualisme extrêmement nécessaire. Hein. C'est pas un caprice hein, chez lui, c'est une vérité. Il est dans la vérité, cet homme.
Dans la façon de vous diriger quand vous êtes danseur, Benjamin Pesch, est-ce qu'il y a eu, non pas des metteurs en scène, parce que ce n'est pas le cas, des chorégraphes qui vous ont surpris dans la façon d'être avec vous qui avez travaillé avec Kylian, Forsyth, Roland Petit?
Oui, Roland Petit avait une manière très directive et très, très frontale de travailler avec les danseurs. Et,
c'est-à-dire
qu'il aimait, il vous disait tout de suite, il vous passait au scanner, et il vous disait tout de suite ce que lui, il pensait de vous. Voilà, ce qu'il percevait, mais... Ça pouvait être brutal. Hein. Et moi, il me disait toujours « Pesch, t'es malin ». Donc, il me confiait ses rôles comme ça. Et j'aimais bien parce qu'il avait l'œil. Il avait vraiment un œil très, très aiguisé quoi, sur les artistes.
Lucille.
Christian Scaretti, vous avez choisi, vous le disiez tout à l'heure, de mettre en scène la traduction d'Yves Bonnefoy qui date de 64. Aujourd'hui, il y a de nombreux metteurs en scène qui refont traduire Shakespeare pour leur mise en scène. Je pense au jeune Thomas Joly, par exemple, et à son Henri VI, qu'on pourra voir dans son intégralité à Avignon l'été prochain. Vous dites à son propos qu'elle convenait parfaitement en quoi ?
J'ai pas entendu.
La traduction d'Yves Bonnefoy.
Ah ben, parce que c'est une œuvre en soi. Parce que Yves Bonnefoy est sans doute un de nos plus grands poètes contemporains. C'est un immense poète. C'est une langue maîtrée, travaillée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'est pas un simple vers libre d'inspiration, conjoncturelle, enfin, circonstancielle, qui correspondrait à un passage ou à une atmosphère. C'est une édification littéraire totale, du début à la fin. Elle n'est pas datée à cause de ça, d'ailleurs, parce qu'elle a sa propre autonomie et qu'elle est, elle est ciselée et avec une merveille lexicale. C'est les mots choisis. Par Bonnefoy, ce sont des merveilles. C'est une pièce en soi. Voilà, il y a l'œuvre de Shakespeare. Je ne suis pas suffisamment fort en anglais pour pouvoir le lire dans l'anglais du XVIIe, mais je trouve que l'édification littéraire de Bonnefoy crée en soi œuvre. Et donc, la servir, c'est une merveille. Ça, les acteurs en parlent merveilleusement bien. La façon qu'il a, par exemple, de travailler la syntaxe selon les personnages, c'est une chose sublime. Quoi. Quand il fait parler Gonneril, il ne fait pas parler Reagan. Et c'est quand vous regardez ça, vous comprenez que c'est dans l'œuvre, dans le texte, qu'il y a la vérité. J'ai pas besoin qu'on le traduise pour moi, si vous voulez. On traduit Shakespeare. Et quand il a écrit, là, dans Le Monde, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, il y a ce grand article... où il était écrit « Il faudrait monter Shakespeare dans le noir ». Tout le monde a pensé que ça voulait dire qu'on... Alors, tous les metteurs en scène allaient faire le... On n'en est pas loin.
Du Claude Régis.
Oui, non. de mettre dans le noir. Et puis, bon. Alors, ce que veut dire Yves à ce moment-là, c'est ce que moi, je dis en disant l'œuvre est entièrement enclose dans son économie littéraire. C'est-à-dire que quand vous lisez Shakespeare, vous voyez Shakespeare. Donc, quand on monte, il faut réussir à faire que, entre deux scènes, il n'y ait pas plus de 3 secondes. Et que l'économie dominante soit l'économie langagière et non pas l'économie d'épanouissement du metteur en scène qui montre qu'il a compris, je ne sais pas quoi. C'est d'être dans l'économie de langue. Alors là, il faut une langue... Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est la plus belle traduction que je connaisse, moi, du roi Lear. Je ne connais pas toutes.
Le rendez-vous, la chronique.
Christian Scaretti, Benjamin Pesch, on va retrouver dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la figure imposée du vendredi au Palais de Tokyo qu'on s'impose à nous-mêmes. Thomas Claire pour un passage en revue d'une nouvelle revue littéraire, c'est ça ?
C'est une revue culturelle, une de ces innombrables petites revues culturelles. Un journal tout neuf, en tout cas, comme l'induit son titre, le 1, dont c'est pourtant le numéro 6. 6 semaines d'existence seulement pour cet hebdomadaire. Un vrai bébé qui m'a attiré plus par sa forme que par son projet. Son projet étant chaque semaine une question d'actualité, plusieurs regards. C'est un peu neutre, comme les bébés justement. Son format, en revanche, est plus séduisant puisqu'il s'agit d'un journal poster qu'on doit même déplier. Enfin, on ne sait pas exactement du coup combien il y a de pages. 2 si on adopte la logique poster, 6 si on prend l'option magazine. Alors cette angoisse du nombre de pages est apaisée grâce au caractère monothématique du numéro de cette semaine qui est entièrement consacré au cinématographe. Cet art du XXe siècle né au XIXe et dont on se demande s'il survivra au XXIe. Enfin, c'est l'interrogation fiévreuse, en tout cas, qui court sur toutes les faces du papier. La page poster, le verso si on veut, s'intitule Star System sur fond bleu ciel et elle compte paradoxalement peu d'images, ce qui fait que je ne l'afficherai pas dans ma chambre.
Manu Farine fait la présentatrice comme la rue de la fortune.
Tout à fait, mais en tout cas moi j'attends avec impatience un numéro sur le football qui viendra peut-être. Alors il y a beaucoup de textes en revanche, donc dans cette partie poster, les auteurs ayant demandé à 10 cinéastes de nous parler des scènes qui les ont marquées et des films dont ils rêvent. Il est intéressant de voir que les cahiers du cinéma font exactement la même chose pour le numéro 700 de ce mois-ci, mais eux ils ont 60 ans. Alors, c'est Jane Campion, Tarantino, Ken Loach, je ne pouvais pas citer tout le monde. C'est très agréable à lire, même si c'est un peu incommode, comme je suis en train de le prouver d'ailleurs.
C'est impossible à lire. Dans le métro, on aurait des ennemis.
Voilà. Les réponses oscillent entre le classique, à bout de souffle, pour Tarantino, ou voire un peu conventionnel, quelqu'un nous dit qu'il a été très marqué par la scène de Blow Up, la scène finale. Moi aussi, 500 millions de personnes pourraient faire cette réponse. C'est parfois, par contre, des réponses plus humoristiques d'un cinéaste que je ne connais pas, et qui dit « J'ai été marqué par la scène de viol dans Délivrance, qui m'a fait forte impression et qui m'a fait reconsidérer d'un œil nouveau mes deux activités. Préférée, le cinéma et le camping. A noter aussi, par contre, la réponse de Costa Gavras qui transforme un rêve en cauchemar, puisqu'il nous dit « Je rêve des dialogues de Michel Audiard sur l'image de Cri et chuchotement ». Ce serait un film de catégorie Z, certainement. A noter aussi la réponse du scénariste John Truby à la question un peu emphatique « À qui admirez-vous ? Qui admirez-vous le plus au monde et pourquoi ?» Et il répond « Je suis béat d'admiration devant des scénaristes showrunners ». C'est vraiment une réponse très corporate.
Enfin, c'est-à-dire, il parle de lui, quoi.
Voilà, il parle d'autres scénaristes. Enfin, c'est assez incompréhensible. Bref, la question de l'admiration est, on le voit, assez trouble, comme nous le rappelle judicieusement René Descartes, qui déclare, il est cité dans le magazine, « Le mépris est un cas particulier de l'admiration ». Je trouve qu'on ne parle pas assez de René Descartes dans l'actualité culturelle. Bref, c'est une revue intellectuelle qui ne tient cependant pas toutes ses promesses si on tourne la page.
Je dois dire la seule page.
Voilà. Je dois dire que ni le point de vue d'Éric Fotorino ni celui d'Éric Orsenna sur le cinéma ne m'attirent guère. À bas les Éric. Même si le mot d'Éric Orsenna commence par un regret que je partage avec lui, j'aurais tant voulu devenir chef opérateur. Nous aussi, ça nous aurait fait des livres en moins à lire, enfin, ou à ne pas lire. Bref, si je voulais faire un mauvais jeu de mots, et Godard sait qu'il y en a beaucoup trop dans cette chronique, je dirais que le 1 n'est pas terrible. Je ne le pense pas vraiment, mais tout de même, ça manque.
Je viens de percuter.
Voilà, ça manque un peu de barbarie, quoi. Bon, bref, la barbarie étant ce qu'il y a de plus beau au monde, avec la poésie, comme dans Le Roi Lear. Aussi était-il judicieux de confier deux colonnes à Andrzej Żuławski, l'un des cinéastes cultes de ma jeunesse barbare, pour 2,80€.
19-20, le rendez-vous Palais de Tokyo, en partenariat avec Anneau Paris.
Eh bien, tout de suite, plateau demi-caractère avec vous, Benjamin Pesch, nommé danseur étoile en 2005 à l'âge de 31 ans. C'était à l'issue d'une soirée marathon sur la scène du Grand Théâtre de Shanghai où vous aviez enchaîné le rôle du prince Albrecht dans Gisèle et celui de Frédéric dans L'Arlésienne. 4 heures de danse non-stop. Est-ce que l'épuisement, du moins la fatigue, apporte quelque chose dans l'interprétation, dans la danse ?
Ah oui, là, c'était vraiment évident parce que, comme vous venez de le dire, c'était un marathon de danse et du coup, il y a vraiment eu un dépassement de soi. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus la fatigue, on ne pense plus vraiment à ce qu'on fait, on est vraiment dans le personnage et les choses viennent naturellement. C'est un, vraiment des moments les plus importants de ma carrière, des moments de scène les plus formidables.
Manu Farine.
Alors, au répertoire, Benjamin Pesch, vous dites avoir toujours aimé ce qui ne vous correspondait pas a priori. Je pense notamment au rôle du prince Albrecht dans Gisèle, que vous avez beaucoup dansé. Qu'est-ce qui aurait dû correspondre à votre physique, si on vous suit bien ?
Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'ai commencé par le jazz. Moi, je n'étais pas du tout un danseur classique. Le classique, ça ne me plaisait pas. Et quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 10 ans, il a fallu que je me mette un peu dans le moule, si vous voulez. J'étais un peu rebelle. Je n'aimais pas trop la discipline. Et finalement, c'est vrai, j'étais attiré par les rôles qui ne me correspondaient pas. Voilà, je me disais, tiens, je suis un danseur un peu demi-caractère et j'avais envie d'être un jeune premier qui arrive comme ça, avec son beau costume. Et finalement, dans ces rôles-là, avec mon interprétation de demi-caractère, où j'ai eu les plus beaux succès. C'est paradoxal.
Qu'est-ce que c'est qu'un danseur demi-caractère ?
C'est un danseur qui se situe dans le répertoire entre l'héros romantique et le danseur de caractère. Donc, il peut un peu interpréter. C'est comme une voix de mezzo-soprano ou un baryton, quoi.
Et est-ce qu'il y a eu des rôles qui vous ont échappé du fait de cette qualité, de cette nature de danseur de caractère ?
Non, je ne crois pas, mais... Il y a des rôles que j'aurais aimé danser que je n'ai pas pu faire parce que les rendez-vous ne sont pas arrivés.
Par exemple,
j'aurais adoré monter sur la table du Boléro de Béjart. Ça, ce n'était pas fait. J'ai fait l'Oiseau de Feu. Voilà. Il fallait choisir, donc j'ai choisi l'Oiseau de Feu.
Manu.
Pour quelle raison est-ce que ça aurait été aussi important pour vous de danser précisément le boléro?
Oh, parce que je trouve que c'est une des partitions du XXe siècle chorégraphique les plus incroyables. Moi, j'ai un souvenir. J'avais un poster dans ma chambre petite de Georges Donne dans ce rôle-là. Et je me disais, tiens, un jour, je rêverais de danser ça. Et puis, je l'ai vu après dans le film de Lelouch, Les uns et les autres. Ça a été un des moments forts aussi, avec un premier contact chorégraphique pour moi, mais qui passait par la télévision. Et c'est un rôle que j'aurais aimé interpréter. Bon, après, il y en a eu d'autres. Hein. Je ne suis pas frustré à ce niveau-là, mais voilà, c'est un petit regret. S'il y a un petit bémol, j'aurais aimé un jour être sur la table.
Vous l'avez dit, la vie d'un danseur est assez courte. Dans quelques temps, dans quelques années, vous allez arrêter la danse, en tout cas en tant que danseur étoile à l'Opéra de Paris. Et dans un entretien, vous parlez du décalage entre la maturité artistique et le corps qui s'amoindrit. À quel moment avez-vous été en pleine possession de vos moyens, maintenant que vous dites danser, beaucoup moins de rôles physiquement traumatisants, Benjamin Pesch?
Je dirais entre 30, le moment où j'étais nommé étoile, 31 ans, et jusqu'à 37, 38 ans. C'est vraiment les belles années. Ensuite, c'est vrai qu'il y a ce décalage avec le corps qui diminue, votre potentiel qui s'amoindrit, et en même temps, votre maturité artistique, parce que 40 ans pour un homme, c'est relativement jeune, et pour un danseur, c'est la fin. Et je trouve que ce décalage est assez touchant. Moi, j'ai été beaucoup touché par des artistes que je voyais sur scène et qui n'étaient plus dans la performance, mais qui étaient dans une telle vérité artistique qu'ils en devenaient touchants et brillants.
Vous pouvez comprendre justement, Christian Scarati, vous qui venez du théâtre, donc c'est une autre dimension, parce qu'on peut être acteur jusqu'à la fin en fait, cette dimension entre le décalage physique et la maturité artistique, ce que ça peut produire.
Mais bien sûr, mais on le voit dans le théâtre oriental, le Kyogen par exemple, la transmission par les acteurs du Kyogen fait que tant que le père n'est pas mort, il se réserve les rôles de jeune fille, et l'épanouissement du rôle devient de plus en plus fin, plus l'âge avance et plus lui va même vers sa échéance finale. Non, je pense que ça, je ressens ça très bien. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes. Pour jouer Juliette, avec toute la profondeur de lecture qu'on peut avoir de Juliette, dans Roméo et Juliette, il faudrait une actrice qui soit en possession de maturité très profonde, de la complexion du rôle. Et en général, on le donne à des actrices qui ont soit une intuition, parce que le génie, ça existe comme ça, soit il y a une perte de la capacité. C'est une des injustices patentes.
Quel a été le rôle, le personnage avec qui vous êtes vraiment senti en phase à un moment donné de votre carrière, Benjamin Pesch?
C'est Frédéric dans l'Arlésienne de Roland Petit. C'est un rôle qui m'a accompagné toute ma carrière. Vous savez, il y a des concours de promotion à l'Opéra de Paris. Je passe des concours depuis l'âge de 10 ans pour accéder au grade supérieur. Donc je peux être renvoyé ou je peux accéder au grade supérieur. Puis une fois que vous rentrez dans la compagnie, vous continuez ces concours pour monter en grade et plus vous êtes gradé et plus vous dansez. Et donc des concours, ça y est, là c'est terminé parce que je suis étoile, mais je suis monté sujet, qui est le grade intermédiaire, avec une variation de Roland Petit de l'Arlésienne, cet héros qui s'appelle Frédéric et qui devient fou et qui se suicide parce qu'il est hanté par le souvenir de la femme qu'il a aimée le jour de ses noces. Et c'est avec ce même rôle que j'ai été nommé danseur étoile. Et entre-temps, Roland Petit m'a souvent appelé pour aller le danser à droite à gauche, à Naples, je suis allé au Japon. Et donc c'est vraiment un rôle, si vous voulez, j'entends la musique, ça y est, je suis parti. Quoi. Je n'ai même pas besoin de me préparer, de me chauffer, c'est dans mon corps, c'est dans mes gènes, ça fait partie de moi. Donc c'est un rôle avec lequel je suis vraiment en phase.
Alors c'est vrai, Benjamin Pesch, que vous avez donc pas mal dansé de pièces de Roland Petit. Quel danseur particulier faut-il être pour danser du Roland Petit?
Il faut avoir du caractère, il faut être un interprète. Là, vous savez, quand vous êtes sur scène et que vous êtes un danseur, la seule chose qui vous manque, c'est la voix. Voilà, le danseur, il n'a pas la voix. Et j'aimerais un jour que mes metteurs en scène me fassent parler sur scène en même temps que je danse. Ce serait vraiment une expérience incroyable. Et je trouve que Roland Petit, finalement, dans ses chorégraphies, dans son approche des personnages, d'une certaine manière, il donne la voix à l'artiste. Il donne cette voix qu'on n'a pas. Il donne une vision sur l'interprétation des personnages qui est très, très forte. Et il permet à un danseur de révéler vraiment le comédien qui est en lui, et ça c'est ce qui me plaît. C'est du théâtre dansé, muet soit, ça c'est la musique qui s'exprime, mais c'est quand même du théâtre dansé.
Vous allez vous arrêter par contrat à 42 ans, donc il ne vous reste plus que 2 ans à l'Opéra de Paris.
Merci.
Est-ce que vous avez une idée de la suite, vous qui étiez candidat à la direction des ballets de Marseille? Oui, lui aussi, il avait quelque chose du côté de l'institution. Est-ce que ça serait devenir chorégraphe? Est-ce que ça serait devenir maître de ballet? Est-ce que ça serait devenir directeur artistique? Chorégraphe un petit peu?
Chorégraphe, non, je m'y suis essayé par curiosité et puis par vanité, je dois le dire, parce que à force de travailler avec plein de chorégraphes, on a aussi envie de dire, nous, quelque chose. Et voilà, comme vous l'avez dit, j'étais candidat pour le Ballet de Marseille par rapport à tout ce que ça représentait vis-à-vis de Roland Petit, et puis par rapport aussi à une vision moderne que j'avais de cette ville qui était au cœur de la Méditerranée. Bon, bref, ça s'est pas fait, on va pas parler là-dessus. Et je crois que vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mener des projets artistiques, éventuellement de décrocher une direction d'une compagnie, d'un groupe. Mais j'aime bien l'idée du metteur en scène. Je trouve que si j'avais pas été danseur, peut-être que j'aurais été metteur en scène, parce que je trouve que c'est un architecte de l'art. Il construit, il fédère. Il apporte des idées, il apporte la matière. C'est lui qui a le final cut, qui dit, enfin, je pense, hein, qui dit non, oui, il dirige l'acteur et il l'emmène vers quelque chose que peut-être même l'acteur lui-même ne sait pas. Et ça, je trouve ça assez formidable de, voilà, de peut-être, alors, peut-être pas metteur en scène, mais en tout cas directeur de compagnie ou monter des projets, diriger un festival.
Ce que vous faites déjà par ailleurs, Benjamin Pech, puisque vous avez monté le groupe Étoile Gala avec des danseurs de votre génération, ceux que vous appelez justement l'entre-deux, avec des danseurs comme Hervé Moreau ou Jérémy Bellingard, après la génération des danseurs de Nourrieff et avant la nouvelle, hein, celle par exemple de Mathias Eman. Entre deux, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que cette génération-là a été moins exposée. Qu'est-ce qui pourrait caractériser justement cette
Alors,
génération?
Quand je dis entre deux, c'est parce qu'à l'époque, les danseurs prenaient leur retraite à 45 ans et les femmes à 40 ans. C'était assez paradoxal parce qu'une femme peut danser beaucoup plus longtemps qu'un homme. La danse, je pense, féminine est un peu moins traumatique. Donc, si vous voulez, il y avait tous ces danseurs qui étaient de cette génération Nourrieff. Moi, quand j'ai commencé à sortir, j'avais 25 ans quand on a commencé à me repérer. Et ces danseurs étaient encore là, mais ils en avaient déjà 40. Donc, ils ne faisaient plus trop le répertoire, les choses difficiles. Mais il fallait attendre qu'ils partent pour qu'on puisse décrocher le... Voilà, parce que c'est une institution, il y en a un qui part, il y en a un qui est nommé. Donc il a fallu que j'attende qu'ils partent tous pour pouvoir décrocher mon titre d'étoile. Mais entre-temps, j'avais quand même dansé tout le répertoire avec mon titre de premier danseur. Et donc quand je dis cette génération d'entre-deux, c'est parce que, bon voilà, on est arrivé entre ce décret de 45 ans et maintenant c'est à 42. Donc peut-être que si à l'époque les danseurs partaient à 42 ans, j'aurais été nommé un peu plus tôt. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de danser, de réaliser mon rêve.
Pour l'après-danseur, se pose parfois la question de l'enseignement. Or, enseigner, dites-vous, serait en contradiction avec ce que vous avez vécu petit, c'est-à-dire...
Moi, j'ai dit ça, moi.
Oui, j'ai horreur de ça. Quand on commence à me renvoyer, ça veut dire qu'on est en train de se planter.
Je pense que ce que je veux dire, c'est que j'avais une danse assez instinctive. Et c'est vrai que bon, j'ai une technique que j'ai apprise par l'intermédiaire de l'école de danse. On a vraiment une technique très, très particulière. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, l'enseignement. Ce n'est pas une voie dans la pédagogie. C'est pas quelque chose qui... J'aime pas expliquer comment je réussis à faire quelque chose. Voilà, j'aime bien que l'instinct, le côté inné de l'artiste prenne le dessus sur la réalisation technique. Parce que c'est tellement ancré en moi, ces exercices que je fais depuis tous les jours, que maintenant, j'y pense même plus, quoi. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas du
ouais,
tout?
J'en ai une autre qui va suivre. Quelles ont été, a posteriori, maintenant, vos faiblesses, vos points faibles?
Je crois que c'est mon corps. C'est le point faible de beaucoup d'artistes.
Voilà. Vous êtes souvent blessé?
Pas souvent blessé, mais j'ai été blessé. Je crois que la hantise du comédien, c'est le trou de mémoire, et la hantise du danseur, c'est la blessure. Je travaille sur mon corps à raison de entre 4 et 8 heures par jour, et c'est vrai que aujourd'hui, bon, ben voilà, j'ai eu quelques accidents. Mais j'aime bien cette phrase de Jean-Louis Barrault qui disait « Dans notre métier, on ne s'arrête jamais parce qu'un jour, ça s'arrête. » Et c'est vrai que des fois, j'allais en scène, je ne voulais pas m'arrêter parce que j'avais une déchirure au mollet, mais quand même, je continuais. Voilà, on a un peu maso, quoi.
Dernière question, Manu Farine.
J'espère que c'est vrai, je ne suis pas sûre. Il paraît que vous avez un public de japonaises, hein, très fan. Qu'est-ce qu'elles vous écrivent?
Qu'est-ce qu'elles vous envoient?
Une fois, on m'a envoyé une petite culotte.
Je suis sûr, c'est le truc de la japonaise.
Non, il y a trêve de plaisanterie. Il y a un vrai public japonais, au Japon, pardon, il y a un vrai public de ballet. Et ils sont admiratifs, je crois, de l'institution, de ce que représente la danse parisienne, de ce que représente l'Opéra de Paris, de l'enseignement qu'on a reçu, de la tradition qui se perpétue. Voilà, ils adorent ça. Et quand on va au Japon, à chaque fois, c'est un carton.
Vous regardez le ballet, vous regardez la danse, Christian
Sciarretti? Très peu, j'ai pas le temps, ou très peu de temps. Mais je suis très admiratif de la clarté de votre pensée.
Ah ben voilà. Sous prétexte qu'il est danseur?
Non.
Vous pensez que les danseurs sont idiots? Non,
parce qu'il parlait de mise en scène. Il disait, ouais, J'aurais voulu être metteur en scène. Je suis très admiratif de la clarté de sa pensée. Je trouve qu'il y a, il y a un fil qui est beau à entendre. Et je pense qu'il est lié, en fait, à la discipline aussi. C'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, que le dépassement de la discipline faisait qu'au fond... oui, mais c'est le dépassement, tout l'objet et toute la question. Et je trouve que chapeau, quoi. J'aime, voilà.
Ouais, merci.
19-20, le rendez-vous Palais de Tokyo,
Il est temps de nous quitter, mais en musique, Mathieu Conquet.
Et en beauté, comme toujours.
Avec Cléauté.
Cléauté qui va chanter un titre en français cette fois-ci. C'est presque un titre théâtral, hein, comme vient la nuit. Mais elle n'est pas tout à fait étrangère au théâtre, Cléauté, puisque je crois qu'elle est assez liée à Vincent Macaigne, qui lui aussi a monté du Shakespeare, mais dans une version beaucoup plus décapante. Cléauté, accompagnée de Stanislas Grimbert aux percussions et Valentin, toujours au violoncelle. Nous sommes en direct sur France Culture. Cléauté.
C'est comme les gens qui s'aiment à rebours, qui jettent au vent des plus jamais et des au revoir d'un jour. C'est comme la mer immense de nos promesses de joie qui glisse sur le sable chaud et me ramène toujours.
Cléauté en direct sur France Culture, ici au Palais de Tokyo. Cléauté sera en concert le 9 juin au Réservoir, c'est à Paris, mais aussi le 26 mai au Divan du Monde, je vais y arriver, le 24 juin au 3 Baudet. Son album Songs of Gold and Shadow paraît sous le label Grand Palais, ce sera le 16 juin.
Je voulais absolument être un comédien grave et tragique et je faisais rire.
Par exemple, j'aurais adoré monter sur la table du Boléro de Béjart, ça s'était pas fait. Il fallait choisir, donc j'ai choisi l'oiseau de feu.
Merci à nos invités. Christian Schiaretti, Le Roi Lear, c'est au Théâtre de la Ville à Paris jusqu'au 28 mai et du 4 au 6 juin au Bateau Feu à Dunkerque. Perceval Le Gallois, c'est jusqu'au 23 mai au Théâtre National de Strasbourg. Et mai, juin, juillet, de Denis Guégout dans une mise en scène, Christian Schiaretti. C'est du 14 au 19 juillet au Festival d'Avignon. Et Benjamin Pêche, toutes les dates de la tournée sont sur le site de l'émission. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
En tant qu'architecte, on ne choisit pas vraiment ses projets. On s'inscrit à des concours et on en gagne certains. Donc ça fait une trajectoire, une carrière, comme on dirait.
Demain, il faudra attendre lundi pour parler carrière avec une émission architecture et design avec Bernard Tchoumi et Marc Held. La session sera jazz avec Omer Avital. Et puis vendredi prochain, ici même au Palais de Tokyo, nous avons rendez-vous avec Mathieu Amalric, qui sera de retour de Cannes, et le metteur en scène Johan Tomrel. Je remercie aussi Marie Piau qui termine ici même son stage en immersion dans le rendez-vous. Des annonces ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site franceculture.fr. Une émission préparée ce soir par Lucille Comeau, Manu Farine, Mathieu Conquet, Benoît Lagan, Marie Piau et Elodie Royer. À la technique, Alexandre James, Bernard Quentin et Jean-Marie Porcher. À la réalisation, Thomas Beau.
Elodie, toujours bressonienne. Merci à toute l'équipe du Palais de Tokyo ici même. Merci bien sûr au public qui est venu nous retrouver une fois de plus.